et qui vous intéresse, et notamment d'un sujet qui vous a fait énormément réagir depuis ce matin, Kenji Girac et le grand déballage du procureur. Thérèse, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous nous appelez d'où, Thérèse ?
J'appelle Dilly-Vilaine de Saint-Aubin-du-Cormier.
Eh bien, bienvenue. Dites-nous en deux mots, Kenji Girac, ça vous a choqué ce grand déballage ?
Oui, tout à fait. Voilà, j'ai trouvé que le procureur était allé un peu trop loin, on va dire.
Bon, eh ben, on y revient dans un instant. Vous restez avec nous, Thérèse. On vous retrouve pour le début des auditeurs ont la parole. Mais d'abord, on va faire un petit point sur l'actualité. Avec vous, Céline Landreau.
Et le bulletin de notes de la France attendu ce soir. Les agences de notation américaines Moody's et Fitch doivent se prononcer sur la dette souveraine du pays. Note redoutée par l'exécutif dans un contexte économique compliqué puisque le déficit public a dérapé, vous le savez, à 5,5% du produit intérieur brut l'an dernier. C'est du jamais vu. Il fallait peut-être s'y attendre. Vous le savez, les prix de l'énergie ont flambé l'an dernier. Eh bien, le nombre d'impayés aussi, plus d'un million d'interventions en 2023. Selon le médiateur national de l'énergie, et pour plus d'un quart d'entre elles, elles ont donné lieu à des coupures. Et puis la vaccination obligatoire contre la méningite chez les nourrissons va être élargie à partir de l'année prochaine face au rebond des infections graves. Jusque-là, elle ne concernait qu'une famille de bactéries. Davantage de souches seront donc désormais concernées. Eric Quintin, un point d'abord pour cet après-midi.
Et ben c'est toujours pas fameux, des averses assez fréquentes, notamment entre le Var et la région lyonnaise à l'heure qu'il est, mais également près des côtes de la Manche et des côtes atlantiques. Ailleurs, quand même, quelques belles éclaircies. C'est le cas entre Paris, Lille ou encore Charleville-Mézières. Ça ne va pas durer toute la journée, bien sûr. Les températures de leur côté restent fraîches. 14 degrés à Caen au meilleur de l'après-midi, 15 à Tours et Strasbourg, 16 à Nîmes et 17 à Paris comme à Bordeaux.
Et pour ce week-end, alors est-ce que enfin, non ?
Non, toujours pas. Alors pas ce week-end, avec une concentration pluvieuse demain, plutôt vers l'Aquitaine, la Vendée et la Charente. Dimanche, Massif central, Lyonnais, Franche-Comté, des températures qui restent fraîches. 16 degrés de moyenne pour la moitié nord au plus chaud de la journée, 17 à 18 pour la moitié sud. Et figurez-vous que ce sera encore le cas toute la semaine prochaine.
Eh bien, merci.
Je vous en prie. Valérie. Je savais que ça vous plairait.
Revenez quand même.
Et très bon week-end.
Ah bah ça s'annonce vraiment ensoleillé.
La vie de rêve, disait Aya Nakamura, c'est vous la vie de rêve. Vous êtes en week-end, Céline. Bon week-end.
Merci Vincent.
Et à lundi, on va parler avec Thérèse de Kenji Girac. Elle est avec nous en ligne et on va revenir avec elle sur le grand déballage du procureur. Mais d'abord, Cindy Hubert du service police-justice de RTL est avec nous dans ce studio. Cindy, beaucoup d'émotions après ces propos du procureur de Mont-de-Marsan. Est-ce qu'il est dans son bon droit ? Est-ce qu'il devait donner autant de détails ?
Alors, il faut toujours avoir en tête que la communication, c'est l'exception. Donc normalement, il y a un secret de l'enquête, il y a un secret de l'instruction. Mais il y a une exception pour faire taire les rumeurs, s'il y a des troubles à l'ordre public, pour en fait arrêter de fausses informations. Là, le procureur était dans son droit de révéler une partie des informations. Et c'est vrai qu'il est allé loin. Hein. La conférence, elle a duré plus d'1h13. C'est très long pour une conférence du procureur. On voit rarement ça. Il est rentré dans des détails sur son alcoolisme, sur ses idées noires. Il est remonté plusieurs années en avant.
Sa relation, 2014, avec sa femme. Vous aviez déjà vu ça ?
Alors, c'est effectivement très rare. Ce qu'explique le procureur que j'ai pu avoir au téléphone, c'est que à partir du moment où le coup de feu a été tiré, nécessairement, en fait, on ouvre la boîte de l'intime, puisque pour expliquer ce coup de feu, eh bien, il faut remonter toute cette chronologie, et c'est comme ça qu'il l'explique, et ainsi faire taire toutes les autres pistes, qui étaient ouvertes, la thèse de l'accident, la thèse de la femme qui aurait peut-être pu tirer. Aujourd'hui, c'est clair, c'est un suicide, c'était une tentative de suicide où il a voulu faire croire qu'il allait se suicider. Et comme ça, on met tout à plat et on fait taire les rumeurs.
Merci beaucoup, Cindy Hubert. Voilà pour les règles. Thérèse, vous venez d'écouter Cindy Hubert. Bon, ça, c'est pour les règles, cadre juridique, ce que pouvait dire ou non le procureur. Votre ressenti, vous, comment vous avez vécu ça ?
Ben écoutez, j'ai trouvé que ben, le procureur en disait de trop, que voilà, par rapport à la vie privée de Kenji, on n'était pas censé être au courant de tout ça. Lorsqu'il a dit qu'il avait été retrouvé sur une chaise en caleçon, ce qu'il avait bu, enfin voilà. Voilà, j'ai trouvé que la conférence de presse était longue. J'avais l'impression qu'il était qu'il fallait faire durer le plaisir, il passait à la télé, et puis voilà. C'est tout. Non, j'ai trouvé qu'il avait exagéré par rapport à Kenji et sa famille. C'était un peu trop. Quoi. Voilà, j'ai trouvé que...
Trop de détails que vous jugiez peut-être inutiles. Les détails sur sa famille,
voilà,
peut-être, son enfant.
Voilà, tout à fait. Et voilà, inutile. Non, il y avait des choses qu'il devait garder pour lui, qu'il ne devait pas dire. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et j'ai trouvé ça honteux de sa part.
Vous suivez l'artiste depuis longtemps, c'est quelqu'un que vous appréciez ?
Tout à fait, voilà, j'aime beaucoup, il est solaire et tout, mais vous savez, des fois ça ne veut rien dire. On a l'impression que les gens sont bien dans leur peau et voilà, c'était peut-être un appel au secours de sa part aussi. Voilà, on croit connaître les gens et non, quoi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup qu'elle vit, c'est quelqu'un de bien, je pense. Et voilà, je pense très fort à sa famille, à ses parents, à sa compagne, la petite, enfin voilà quoi. Toute la communauté également, et voilà.
Ça ne change pas votre regard, ça ne change pas votre regard sur l'artiste ?
Du tout, au contraire. Non, je pense qu'il va falloir qu'il soit bien entouré, voilà, qu'on prenne soin de lui et surtout qu'il aille pour le mieux prochainement et qu'il prenne soin de lui, voilà. Qu'il se remette d'aplomb, comme on dit, pour qu'on le revoie assez vite.
Alors, c'est un artiste, Kenji Girac, mais si ça avait été la même affaire avec un personnage public, un homme politique, par exemple, vous auriez dit la même chose ?
Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que le procureur m'a écœuré. Et franche avec vous, non, il y a des propos qu'il aurait dû éviter de dire, quoi.
Mmh. Vous restez avec nous, Thérèse, on va accueillir Didier. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Vincent.
Vous nous appelez de Vichy, vous, c'est ça ?
Alors moi, je suis pas à Vichy parce que je suis routier, donc je suis sur la route, je suis au niveau de Moulins et je vais rentrer chez moi, là, incessamment sous peu.
Alors soyez prudents, une toute petite pause et on revient avec vous Didier, à tout de suite.
Ok.
Jusqu'à 14h30, Vincent Derosier vous donne la parole sur RTL. Vincent Derosier, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Mon Dieu, que j'ai honte. Mince, il a droit à une vie privée. Et puis alors, ce procureur qui s'est pris pour une vedette, bien et à raison. Il peut se faire envoyer des fleurs, mais foutez-lui la paix.
Voilà, une auditrice qui vient de nous laisser un message sur l'appli RTL. Vous l'entendez, le procureur n'est pas très populaire pour l'instant au 32-10 après ses propos et tous les détails donnés sur la vie privée de Kenji Girac. Didier, vous êtes toujours sur la route et vous êtes toujours avec nous sur RTL ?
Tout à fait, je suis là.
Alors, est-ce que vous l'avez suivi, vous aussi, cette conférence de presse du procureur et comment vous l'avez vécu, cette affaire ?
Alors moi je dis qu'il a tout à fait, il a eu raison. Pourquoi? Parce qu'il l'a bien dit, hein, de toute façon, pour faire taire les rumeurs, justement. Parce que je crois que si on se serait arrêté là, on en aurait encore parlé lundi, on en aurait encore parlé mardi, on en aurait encore parlé mercredi. Enfin, ça aurait été une chaîne sans fin. Et comme ça, au moins, les rumeurs sont closes. Il y a plus pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'au départ, bon, on a cru qu'on lui avait tiré dessus, quelqu'un du membre de sa famille. Enfin, moi, je trouve qu'il a bien fait, le procureur. Et puis, il n'a pas été très loin, parce que à partir du moment où il avait commencé à dire les choses, bah, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'autrement, ça n'aurait fait qu'amplifier les rumeurs, justement. Donc, moi, je trouve qu'il a bien fait. Je trouve qu'il a bien fait, parce que... Voilà. Puis, quand on est un personnage public, eh ben, on prend le risque aussi de voir sa vie étalée, comme ça, au grand jour. Moi, je trouve que c'est un risque qu'il a pris. Il a fait une connerie. Il faut qu'il assume maintenant, hein, de toute façon.
Thérèse, juste avant vous, Didier, qui disait qu'elle était écœurée, que c'est vrai qu'elle, elle ne sentait pas forcément l'utilité de ses détails, le caleçon, les détails avec sa petite fille, dans la caravane. Voilà, vous dites que ça a mis fin à l'affaire, mais vous comprenez que chez les fans de l'artiste, ce soit difficile de voir tout ça déballer ?
Justement, c'est ça, c'est les fans de l'artiste. Moi, je suis pas particulièrement fan, j'aime bien Kenji, je l'écoute sans problème, je pas d'opinion sur lui, sur ce qu'il fait, j'aime bien, mais c'est parce que ce sont des fans et les fans veulent pas qu'on touche à leur artiste ou à leur chanteur préféré parce que ce sont leurs artistes et c'est à eux, ça leur appartient et ils veulent pas qu'on y touche, qu'on en dise du mal. Voilà, je pense que c'est ça.
Alors, c'est tout à fait ça. Didier, sa compagne, elle, souhaitait rester anonyme. Elle ne l'est plus. Pour elle, c'est difficile.
Bah, c'est difficile, mais en même temps, elle vit avec un artiste. Hein.
Et ça permet tout ?
Ça permet tout, non, mais ça a des risques. Ça a des risques.
C'est des risques qu'il faut savoir quand on se met avec une personnalité publique, c'est ça que vous nous dites ?
Tout à fait. Je pense qu'il faut, voilà, il faut assumer quand on veut se mettre avec quelqu'un, avec quelqu'un de connu, on en assume les conséquences et les conséquences elles sont là.
Cindy Hubert, je me tourne vers vous, c'est ce qu'a fait le procureur. Il a tout donné sans se soucier de la vie privée de la compagne de Kenji Girac.
Et précision par rapport à ce qui vient d'être dit, alors c'est pas un secret, hein, le procureur me l'a confirmé ce matin, avant de faire sa conférence de presse, il a prévenu Kenji Girac et sa compagne en leur disant « attention, on va rentrer dans les détails, on va rentrer dans l'intimité ». Il n'a pas à le faire, il n'a pas à leur demander leur avis, il n'a pas à leur demander leur accord. Il a une liberté totale, le procureur. Sur la forme, vous vous souvenez peut-être des conférences de presse de Monsieur François Molins à l'époque des attentats de Paris, avec un style très ciselé, très froid, très factuel. Le procureur, il fait ce qu'il veut sur la forme et sur le fond. Il va devoir taire certaines informations, il va devoir en divulguer certaines en fonction de ce qu'il peut dévoiler ou non et en accord évidemment aussi avec les enquêteurs.
Et pour lui, on le rappelle, ce qu'il a dévoilé comme détail servait à fermer plusieurs chapitres et redonner les faits.
On est dans une affaire qui est absolument exceptionnelle en termes de press people, notamment on a des journalistes qui cherchent des informations, il y a des rumeurs, il y a beaucoup de choses. L'idée c'est aussi de clore ce chapitre. Ce qui est particulier avec cette affaire, c'est qu'elle s'arrête très vite. On est souvent sur des conférences de presse du procureur, dans une instruction qui est en cours. Ici, comme le disait le procureur, ben voilà, on sait déjà vers l'issue vers laquelle cette affaire va mener, et donc on est déjà en capacité de pouvoir dire le chapitre est clos, voilà vers quoi l'enquête va mener.
Thérèse, vous êtes toujours avec nous, vous venez d'entendre Cindy, vous avez entendu Didier, qui est un peu plus dur que vous. Ça vous choque, là, d'entendre ça ?
Bah écoutez, chacun ses idées. Bon, ben voilà, comme il disait, c'est vrai que les fans, voilà, faut pas dire de mal de leur artiste en général et tout, mais bon, ça ne change pas le fait que j'ai trouvé que le procureur, allait trop loin, donnait trop de détails. Et voilà, c'est tout.
Légal, mais pas forcément moral. Voilà, vous auriez aimé qu'il y ait un peu plus de décence.
Voilà, tout à fait, c'est ça, tout à fait.
Didier, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, bien sûr, oui.
Est-ce que vous voulez dire un petit mot à Thérèse ?
Non, pas particulièrement. Bon, ce qu'elle a dit, je respecte, voilà, je respecte ce qu'elle a dit, mais moi j'ai ma conviction, elle est que le procureur avait tout à fait raison de faire ça, justement pour éviter les rumeurs, parce que après on en aurait encore reparlé, et ça l'aurait peut-être aussi desservi. Ça aurait desservi peut-être Kenji Girac, peut-être avec ses rumeurs, en disant peut-être que il a voulu, c'est ça, peut-être sa femme qui aurait voulu le tuer, par exemple, pourquoi pas. Mais voilà, donc maintenant voilà, ça c'est clair, voilà, il a voulu mettre fin à ses jours. Non, il a pas voulu le faire, puisque c'est une tentative de suicide, on va dire, pour justement comme l'a dit Thérèse tout à l'heure, pour qu'on un appel au secours, peut-être qu'on s'intéresse à lui en disant je suis mal dans ma peau, j'ai un problème peut-être.
C'est intéressant ce que vous dites, Didier. Cindy Hubert, c'est vrai, ça marche contre les rumeurs, ça ?
Alors nous, c'est quelque chose qui est très précieux pour les journalistes d'avoir ces conférences du procureur, parce que ce sont des mots officiels, et donc ça permet d'avoir une source officielle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris, par exemple, même à l'École nationale de la magistrature, où les auditeurs de justice vont avoir quelques jours de session pour savoir comment faire, comment gérer cette pression médiatique. Alors il y a plusieurs leviers, répondre aux journalistes, faire un communiqué, et cette conférence de presse, c'est la toute dernière étape, et elle permet effectivement de mettre des mots, de retracer une chronologie sur ce qui a pu se passer.
Nicolas a fait le 32-10, il est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Vincent.
Alors vous avez écouté Thérèse, vous avez écouté Didier, vous, Kenji Girac, le déballage du procureur, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Moi je vais vous dire, le procureur Janson, il s'appuie sur l'article 11 du code de procédure pénale pour justement, déjà, il dit en préambule qu'il va dévoiler des choses. Il dévoile des choses, le procureur Janson, pour protéger Kenji. Il le protège, c'est-à-dire qu'il dit voilà, déjà je vais couper l'herbe sous le pied à tous les magazines People qui vont aller l'ennuyer, ainsi que sa conjointe, pour raconter n'importe quoi. Lui il dit déjà, moi je protège Kenji. Et on a bien vu qu'il le protégeait. C'est-à-dire, voilà, Kenji, ça pourrait être son fils, Kenji. On a bien vu que dans comment il parlait, il avait de l'affection. J'ai senti de l'affection du procureur, qui disait, Kenji, il a des addictions, il a de l'alcool, il a de la drogue. C'est peut-être aussi un message pour lui dire à Kenji, eh ben écoute, c'est peut-être le moment d'aller te faire soigner et de repartir sur une bonne base avec ta compagne, avec ton enfant. Et moi, je t'aide à ça. Voilà le message du procureur.
Mmh. On entend, mais vous parlez de protection. Est-ce que sa femme est protégée lorsque son nom est révélé dans les médias ?
Sa femme, elle est dans tous les journaux People. Sa photo, elle est dans tous les journaux People, dans tout Instagram. Mettez son nom dans les journaux, vous verrez apparaître sa femme. Il y a pas de secret là-dessus. Vous croyez que les journaux People vont les lâcher durant les jours ou les semaines à venir ? Mais non.
Et qu'on explique qu'elle était mal intégrée dans la communauté des gens du voyage également.
Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit je vais vous dire, c'est pas un fait nouveau. N'importe quelle personne qui n'est pas gens du voyage va avoir du mal à s'intégrer. D'ailleurs, essayer de rentrer dans le. D'ailleurs, les gendarmes ont eu du mal à rentrer. Vous voyez, ça, on le sait. Il y a rien de nouveau là-dedans.
Le grand public a découvert quand même.
Le grand public a découvert. Découvert quoi?
Ce que vous dites, sa femme, enfin je veux dire, vous parlez des journaux People, mais 99% femme, des gens, tout ça est nouveau.
Non, pas du tout, parce que les gens qui le suivent et qui l'aiment savaient déjà qu'il avait une femme, qu'il avait un enfant, voilà, c'est tout. Il vit une vie. Alors maintenant, effectivement, comme l'a dit l'auditeur précédent, c'est une vie publique, donc forcément, ses moindres faits et gestes sont scrutés par des gens qui l'admirent, qui vous voyez des fans, comme oui. On appelle ça. Bon, lui, il dit effectivement, les fans veulent savoir. C'est aujourd'hui, il y a des émissions People. On refait c'est quoi Lost Story, Secret Story. Vous voyez, les gens ont besoin de savoir. Alors plutôt que de savoir n'importe quoi, lui il dit, moi, je suis le procureur et je suis la loi et je vais te dire la vérité. Voilà. Mmh. Voilà, comme ça, il coupe tout.
Un rôle de vérité et de protection pour protéger Kenji.
Voilà,
Kenji
moi je pense que faut voir le procureur vraiment là dans cette situation. Il a été protecteur de Kenji. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'il a très bien fait et qu'il a été très bon dans ce qu'il a dit. Voilà.
Merci Nicolas de nous avoir donné votre avis au 3210. Bonjour Lydie.
Oui, bonjour.
En deux mots, vous nous appelez d'où et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire?
Moi, vous voyez, je suis artisan chauffagiste, chef d'entreprise. Donc là, je ressors d'un nettoyage de chaudière et je démarre dans ma voiture. Et qu'est-ce que j'entends? On est encore sur l'affaire de Kenji Chirac. Comme ce matin, parce que tous les matins, je me lève avec RTL. Hein, j'aime bien savoir ce qui se passe au niveau économique et politique. Mais là, donc, je réagis parce qu'il y en a marre. Mmh. On a eu l'affaire du petit Émile. Maintenant, c'est l'affaire Kenji Chirac. Voilà, faut qu'on lui foute la paix. Le procureur, j'ai entendu vaguement hier soir.
Lydie, on va marquer une courte pause. Vous ne mettez pas encore la clé sur le contact. On vous retrouve juste après la pub et votre coup de gueule dans un instant.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole. Vincent Derosier sur RTL.
Et on va aller tout de suite prendre la température au standard et sur les réseaux sociaux pour voir s'il y a des messages. Enzo, beaucoup de messages?
Oui, tout à fait. Bonjour Vincent et bonjour à tous nos auditeurs. Beaucoup de réactions sur la fameuse affaire Kenji Girac et nos internautes sont plutôt partagés. Janie, fan de Kenji, nous dit « C'est un scandale, la vie privée appartient à chaque personne. C'est une honte d'avoir raconté ce qui n'avait rien à voir avec l'affaire. » Christine, elle est plus mesurée. Elle écrit « La médiatisation le mettra en face de ses dérives. Les draps sûrement à réfléchir. J'espère que sa famille, sa carrière et sa santé seront sa priorité. » Dans une quinzaine de minutes, nous parlerons des influx chômeurs, des influenceurs spécialisés dans les astuces pour profiter un maximum des allocations chômage. Toujours dans la légalité, mais en jouant avec les règles. Alors, êtes-vous choqués? Chers auditeurs, c'est d'ores et déjà le moment d'appeler le 3210. Margot et Cerise se tiennent prêtes à recevoir vos appels.
Merci Enzo. Ben voilà, quelques messages sur les réseaux sociaux et le standard. Lydie, vous êtes toujours avec nous après votre histoire de chaudière?
Oui, vous m'entendez bien?
Oui, on vous entend très bien.
Oui, donc voilà, oui, comme je vous disais, ben je me lève tous les matins avec RTL. RTL, en fait, j'ai 53 ans, hein, je suis née avec RTL. Je vais dire carrément qu'il y avait RTL dans mon landau, on va dire comme ça, en fait.
On vous dit merci déjà.
Voilà. Donc je suis un petit peu horripulée, mais bon, plus rien ne m'étonne. Hein, j'ai 53 ans, je suis partie d'une génération où vraiment on était un peu plus... beaucoup moins, faisait moins d'extrapolations sur les faits divers comme ça à notre époque. Voilà, Kenji, je suis pas fan de lui, hein, parce que j'entendais un auditeur précédent qui disait oui, mais les gens réagissent comme ça, ils le protègent parce qu'ils sont fans. Moi, c'est plutôt AC/DC Metallica. Donc, s'il y avait, à chaque fois, il y avait une polémique quand il chutait ou qu'il buvait, croyez-moi que les radios, ça serait non-stop, hein. Je suis pas fan du tout de Kenji Chirac, c'est sa vie privée. Il vit dans une caravane. Bon, ben, c'est son choix, c'est sa famille, c'est sa façon de vivre. Mais moi, ce que je trouve déplorable, c'est que maintenant, voilà, les gens, ils ne disent même plus bonjour à leurs voisins. Ils ne sont même pas là pour le secourir en cas de besoin. Mais alors, qu'est-ce qu'on adore s'accaparer des faits divers, des candidatons de conciergerie comme ça? Moi, c'est ça qui me fatigue, en fait.
Mais justement, Lydie, les propos du procureur, ils mettent fin à l'extrapolation, ils donnent tous les détails. Alors certes, il en donne beaucoup, mais ça permet au moins d'avoir les faits.
Oui, alors le procureur, j'ai l'impression que ça doit être un fanatique des feux de l'amour, lui. Voilà, désolé, mais quand on est procureur, on a peut-être aussi le droit d'une réserve. Moi, je me souviens pas qu'il y a 30 ans, il y a 20 ans, quand il y avait un fait divers à la télé, hein, que le procureur était là à donner des détails croustillants. Sur l'affaire du petit Grigory, par exemple, en 84, voilà, le procureur, on les voyait, mais on ne donnait pas. Qu'est-ce que c'est aussi que cette justice, maintenant, qui donne des détails sur les affaires, au risque de faire foirer une affaire, une enquête ou quoi que ce soit? On est dans une société, moi, je ne comprends pas. Le procureur, il n'avait qu'à dire, point barre, faire son métier. Déjà, et puis de dire, l'affaire suit son cours, l'affaire est classée, il n'y a pas eu d'intervenant extérieur, et puis voilà, mais maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin de nous raconter tout ça?
Dans la multitude de détails donnés par le procureur, il y a quelque chose qui vous a choqué en particulier, vous?
C'est d'aller révéler déjà que, qu'il était dans une caravane, qu'il a des ennuis personnels avec sa compagne. Mais écoutez, si le procureur, il faut qu'il fasse des révélations à chaque fois que quelqu'un a des ennuis avec son compagnon ou sa compagne, donc là c'est pareil, il va avoir du boulot, pépère. Mais voilà, ça ne concerne personne, ça fait de sa vie. Il a reçu que les informations diffusent qu'il a été hospitalisé parce qu'il y a eu une... Voilà, point barre, on le sait, il a été hospitalisé. Mais derrière, qu'on n'aille pas chercher. Vous vous rendez compte, ce matin, j'ai fait l'allusion à mon mari à 6h30 quand j'ai allumé la radio. RTL, j'écoute que ça, hein, était déjà sur l'affaire Kenji Chirac. Une heure après, on était encore sur Kenji Chirac. 2 heures après, on était encore sur Kenji Chirac. C'est bon, on a compris.
C'est un artiste, c'est une vedette, il a vendu beaucoup de disques.
Ben oui, mais enfin bon, à ce moment-là, on va plus s'en sortir si tous les artistes... Il faut classer l'affaire. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, mais qu'on ne vienne pas nous rabattre les oreilles avec ça pendant 3 semaines. C'est ça le problème. Pendant ce temps-là, il y a les pauvres Ukrainiens qui se ramassent des bombes sur la gueule. Pendant ce temps-là, il y a Poutine. Enfin, voilà, il y a des sujets beaucoup plus importants que d'écouter ce qui se passe et les histoires de paillassons d'à côté. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'énerve.
Cindy...
On est une société maintenant, c'est ça. On s'abreuve que de détails croustillants. Pour peu qu'il y en ait un autre qui surenchérisse en disant que Kenji Chirac, peut-être qu'il avait mangé du bœuf bourguignon, eh bien ça y est, quoi, on va attaquer les bouchers. Voilà, ça finit plus.
Lydie, c'est un avis tranché et très imagé. Merci en tout cas d'avoir appelé le 3210 pour nous le donner. Cindy Hubert du service police-justice est avec nous dans ce studio. On en parlait à l'instant avec Lydie. C'est déjà arrivé ce niveau de détail?
Ce qui est sûr, c'est ce que disait Lydie, c'est qu'effectivement, les procureurs ont une adaptation un peu plus libre de cet article 11 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'on a une pression médiatique qui est plus du tout la même qu'il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, il y a des télévisions avec des informations en continu, et donc la pression médiatique n'est pas la même pour la justice, il a fallu s'adapter, d'où le fait qu'on fasse effectivement des conférences de presse. Après, Lydie citait des affaires anciennes, je ne suis pas sûre, encore une fois, que l'affaire du petit Grégory soit exemplaire en termes de communication et de fausses rumeurs, donc parfois, c'est peut-être aussi bien qu'une autorité officielle mette un point final à une affaire.
Merci Cindy Hubert. On va marquer une courte pause, mais d'abord, on va accueillir Teddy qui nous a appelé en faisant le 3210. Bonjour Teddy.
Bonjour monsieur.
Vous nous appelez d'où Teddy?
De Bordeaux.
Eh bien, on vous dit à tout de suite, restez avec nous.
Ok.
Jusqu'à 14h30, Vincent Derosier vous donne la parole sur RTL. Vincent Derosier, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et c'est l'heure du répondeur des auditeurs. Victor Darcas est avec nous. Bonjour Victor.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages?
Eh bien écoutez, on a toujours beaucoup de messages et particulièrement en ce moment, le standard et l'application sont submergés par cet élan de solidarité des auditeurs qui veulent aider Christelle.
Oui, bonjour. J'écoute les auditeurs ont la parole et hier midi, j'ai entendu qu'il y avait une cagnotte pour Christelle.
Estelle. Donc j'aurais aimé participer à la cagnotte et j'aurais voulu connaître les liens pour participer justement. Merci beaucoup.
Et puis, on rappelle que Christelle, hein, c'est cette auditrice en situation de surendettement et qui s'est fait aider par nos auditeurs. On en a parlé très longuement hier, émission spéciale.
Exactement. Jean et Lucien qui ont fait des dons à l'antenne. Et pour ceux qui n'ont pas Internet mais qui nous ont contactés, nous allons vous recontacter individuellement. Vous êtes très nombreux. Malgré tout, ceux qui veulent aider Christelle sur sa cagnotte en ligne, eh bien, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook Les Auditeurs ont la parole. Nous avons fait un post avec le lien de sa cagnotte. Actuellement, la cagnotte est quand même à plus de 5000 euros.
Plus de 5000 euros quand même. D'autres messages sur le répondeur, Victor, ou pas ?
Et c'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Kenji Girac, sa vie privée a été largement détaillée par le procureur de Mont-Saint-Marsan. On écoute Eliane.
Je suis tout à fait d'accord avec le procureur. En fin de compte, ça permettra justement qu'il n'y ait pas de rumeurs et que ça ne s'étale pas sur le nombre de jours à non plus finir. Il a le droit d'avoir une vie privée, c'est un fait.
Et un autre message laissé par Bernard.
Oui, bonjour, c'est Bernard. Je voudrais savoir si ça pourrait pas être l'occasion d'ouvrir un petit dossier sur la responsabilité professionnelle des magistrats.
La responsabilité pénale des magistrats. Cindy Hubert, du service police-justice.
Oui, alors en théorie, on pourrait engager la responsabilité des magistrats, engager une procédure disciplinaire. Ce que dit la loi, c'est qu'il faut rendre des éléments objectifs tirés de la procédure, ne pas donner une appréciation et respecter l'enquête, l'instruction, et puis évidemment les mises en cause et les victimes.
Et voilà une réponse immédiate à la question de Bernard. Tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle aussi. Faut-il légiférer l'IA pour protéger certains métiers.
Un jour je serai le meilleur dresseur, je fleuve à présent les pieds.
Vous l'avez reconnu, Vincent ?
Oui, mais là, faut nous aider.
Il faut nous aider un petit peu.
Je connais pas le texte, par contre.
Donc, c'est Johnny Hallyday qui chante Pokémon, le générique de Pokémon. Évidemment, c'est pas lui qui chante, c'est une intelligence artificielle. On a pas mal d'exemples comme ça qui pullulent sur Internet.
On peut faire n'importe quoi.
Exactement.
À l'intelligence artificielle.
Faire n'importe quoi. Avocat, chanteur, comédien du doublage. Brigitte Lecordier, voix française de Sangoku, Oui Oui et tant d'autres, sera avec nous après 14h pour parler de ces métiers qui vont peut-être disparaître. Appelez-nous, vous aussi, au 3210.
Et vous pouvez nous appeler, oui, Enzo, Margot, Cerise vous attendent, parce que ce sujet de l'intelligence artificielle, notre invité nous le disait tout à l'heure, à la mi-journée, il va concerner 99% des métiers dans un proche avenir.
Les auditeurs ont la parole.
Vincent Derosier sur RTL.
Teddy, merci d'avoir patienté. Alors, vous nous appelez d'où,
oui,
Teddy ?
Je vous appelle de Bordeaux.
Alors, vous êtes où et pourquoi vous nous appelez ?
Alors, je vous appelle tout simplement. Alors, je suis à Bordeaux, hein, donc je fais partie de la communauté des gens du voyage. Je ne connais pas personnellement Kenji, d'accord, donc je ne l'ai jamais vu même. Mais j'aimerais bien faire appeler au procureur qui n'est pas chroniqueur d'un magazine People, mais qu'il est bien procureur. Donc, il faut garder son sérieux à un certain moment, qu'il puisse faire son travail, d'accord. Il n'y a pas de souci, donc il rappelle les faits, etc. Mais rentrer dans des détails croustillants, simplement parce qu'il se croit travailler chroniqueur dans un magazine People, je pense que c'est pas sérieux de sa part.
Voilà. Vous dites que vous faites partie de la communauté des gens du voyage. Vous vous êtes senti stigmatisé, visé, heurté ?
Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez eu un monsieur au téléphone. Il était en ligne avec vous et il disait bien que c'était difficile pour une personne qui faisait pas partie de la communauté des gens du voyage de s'intégrer chez nous. Et je suis pas d'accord comme ça que des personnes qui ne font pas partie de notre communauté, du coup, qui ne vivent pas ce que nous on vit tous les jours, de pouvoir se permettre de parler et de dire des choses qu'ils ne comprennent absolument pas. Je suis très bien parlé pour le dire, placé pour le dire. Excusez-moi. Il y a des personnes qui sont dégagées, hein, donc dans notre communauté, et j'ai des cousins, des cousines qui sont mariés avec ces personnes-là, d'accord. Aujourd'hui, ils sont chez nous, ils sont très très bien intégrés au milieu de notre communauté, ils parlent notre langue couramment, et ils élèvent nos enfants dans notre valeur. On est d'accord avec ça. Donc ça, c'est faux. Quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a des gens, des Français, on va dire, des gagés qui peuvent pas aujourd'hui s'épanouir au milieu de notre communauté parce qu'il y a eu un mariage mixte, on va dire ça comme ça, c'est faux. Il y a des gens qui sont très très bien chez nous, et je suis pas d'accord aussi sur ce qu'il a dit le monsieur le procureur sur il y a les gendarmes qui sont venus mais ils sont repartis aussi sec. Et ça remet encore du bois sur le feu en disant qu'on est une communauté violente et que chez nous c'est la loi de l'omerta, etc., etc. Je pense que voilà, il s'est passé quelque chose, d'accord, c'est quelqu'un de connu, c'est un artiste, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a eu quelque chose, il a une vie médiatique. On dit ce qu'il a fait, on ne rentre pas dans les détails. Point la ligne. Après, le détail.
Ça, le procureur a peut-être voulu dire tout simplement ce qui s'était passé, redonner les faits avec un niveau de détail, c'est vrai, assez élevé. Mais...
Oui, mais assez élevé. Il n'est pas chroniqueur, encore une fois, d'un magazine People. Il est procureur qui rappelle les faits de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui parle de l'arme, etc. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais qui rentre dans les détails croustillants, je ne suis pas d'accord.
Sur sa vie privée, qu'est-ce qui vous a le plus heurté, vous ?
Ben, sur sa vie privée, c'est voilà de parler des histoires qu'il a avec sa femme, de remonter il y a de quelques années en arrière de ce qu'il a fait dans sa vie, de qui prend de la cocaïne, qui prend de l'alcool, etc. Je pense que voilà, je me suis senti très très mal à l'aise tout à l'heure quand j'ai écouté ça, tout simplement parce que je me dis mais c'est pas possible, je m'imagine moi à sa place, avec mes parents, ma famille, qui savent pas des fois ben, que je prends de la cocaïne, etc. Et puis qu'elle est là, tout le monde le sait, alors que j'en prends pas, je vous rassure, hein, je me suis jamais drogué de ma vie, je bois même pas d'alcool, bon. Mais pour vous dire que voilà, ça stigmatise encore une fois et toujours notre communauté. Aujourd'hui, nous, dans notre communauté, on ne peut plus rien faire. Il n'y a personne qui nous représente. Il n'y a personne qui prend notre défense. Aujourd'hui, on veut acheter un terrain pour pouvoir s'installer dedans avec les caravanes. La mairie nous refuse, si vous voulez, l'installation de nos caravanes dans les terrains qu'on achète, si on peut les acheter, alors qu'on cache notre appartement à cette communauté pour pouvoir acheter des terrains. Quand on n'en a pas, bien sûr, on fait de camping sauvage parce que c'est obligatoire. Là, moi, je dois partir récemment avec les caravanes. Donc, il y a eu un endroit où j'ai appelé. Je suis tout seul comme caravane, donc je m'en vais tout seul. J'ai appelé une aire d'accueil pour pouvoir m'installer. C'est un pataquès, je vous explique même pas. En fait, voilà, il n'y a rien qui va.
Et vous pensez que cette affaire va encore vous faire du tort ?
Ah ben, c'est sûr. C'est sûr, ils vont nous dire quoi encore ? Ben regardez, même si c'est un artiste, même s'il est placé aujourd'hui, il est vraiment bien inséré dans la société, eh ben toujours et encore, s'il fait partie de la communauté du voyage, c'est des gens violents, il y a des armes, etc., etc. Et voilà. Et donc je suis pas d'accord sur des gens qui viennent parler en disant qu'il y a des gens qui font pas partie de la communauté, qui viennent pas s'intégrer chez nous, c'est faux. J'ai des membres de ma famille qui sont mariés avec des sédentaires, on va dire ça comme ça, et qui sont aujourd'hui chez nous, ils parlent très très bien notre langue. Ils élèvent leurs enfants dans notre culture, dans nos traditions, etc. Il y a pas de souci à ça, ils sont très bien intégrés.
Est passé, Teddy. Vous restez avec nous. On va dire bonjour à Jérôme. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où, Jérôme ?
De Suisse.
Et vous nous appelez pour Kenji Girac, encore. Les propos du procureur vous ont heurté ?
Oui, c'est vrai que c'est toujours répétitif, etc. Mais moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que pour moi, il a fait le job, il a fait le boulot pour faire taire les rumeurs. Donc, pour moi, c'est tout à fait légitime. Et en fait, moi, je suis chauffeur de
VIP. Vous restez là. On a l'essentiel, okay. Jérôme. Vous restez là. Courte pause et c'est vous juste après cette pause.
Les auditeurs ont la parole.
Vincent Derosier sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole. Vincent Derosier sur RTL.
Bonjour RTL. Depuis quelques jours, on entend parler en long, en large et en travers de l'affaire Kenji Girac. Mais j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu ce qui pourrait être une victime de violences psychologiques, de chantage affectif. Tu parles de sa femme.
Voilà, nouveau message de Nicolas sur le répondeur RTL. Et Jérôme, vous êtes resté avec nous ?
Tout à fait.
Vous nous appelez d'où, Jérôme ?
Alors moi, j'appelle de Suisse.
Ah, et vous avez suivi ?
Je suis parisien d'origine.
Parisien, vous vivez en Suisse et vous avez suivi tout le déroulement de l'affaire Kenji Girac et les propos du procureur. Ils vous ont heurté ?
Alors non, en fait, moi, ça ne m'a pas du tout heurté dans le sens où il a fait, comme je le disais tout à l'heure, il a fait le job, il a fait ce qu'il devait faire. De toute façon, les gens qui se sentent un peu offusqués par rapport au dire du procureur, ce sont les premières personnes qui vont aller sur Internet ou YouTube ou etc. pour tout gratter, pour essayer de savoir le pourquoi du comment. Donc en fait, il les a devancés et c'est peut-être ça aussi qui les énerve.
Autant donner tous les détails d'un coup, mais qu'ils soient vérifiés, c'est ça que vous nous dites ?
Moi, je pars de ce principe-là, oui. Au moins, comme ça, on ne tourne pas autour du pot. Il n'y a pas de rumeurs de ceci, de cela. Et puis, encore une fois, moi, je tiens à préciser que j'ai strictement rien contre les gens du voyage. Chacun est libre de vivre à sa façon et comme il veut. Mais voilà, ça s'est déroulé comme ça. Après, c'est à lui d'assumer ce qu'il a fait. Et puis voilà.
C'est un avis très clinique que vous avez là. C'est-à-dire que vous comprenez que ça suscite de l'émotion. Alors, chez les fans de l'artiste, mais pas uniquement. Chez tous les gens qui suivent l'actualité sur RTL.
Mais oui, mais moi le premier, parce que j'ai essayé de savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Parce que c'est une personne connue, et puis qu'on aime bien, et qu'on aime entendre chanter, qu'on aime voir. Et c'est vrai que c'est touchant. Mais à ce moment-là, il faut que lui, il assume ce qu'il a fait. Et puis, maintenant, il faut qu'on arrête de parler de ça et qu'on passe à autre chose.
Moi, il y a beaucoup de gens, moi, j'ai côtoyé beaucoup de VIP dans ma vie depuis 25 ans, et vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui sont toujours, tu fais avec telle et telle personne, et comment il est, donc en fait, tout le monde veut savoir, mais personne veut le dire.
Mmh. Ça a évité une forme de voyeurisme, en fait, si on vous comprend bien. Mais,
exactement, en fait, il a devancé tout le monde, tous les magazines People, etc., etc., et je trouve que ça a été fait parfait, c'était, il y avait rien à dire.
Teddy, vous entendez Jérôme? Ça vous fait réagir?
Ben, un petit peu quand même, parce que bon, de dire qu'il a été parfait, non, pas surtout, qu'il fait son travail en tant que procureur, je suis d'accord, j'empêcherai jamais un procureur de travailler, il n'y a pas de souci, qui que ce soit d'autre, mais de dire qu'il a été parfait, là, c'est un petit peu tiré par les cheveux.
Bon, alors, d'accord, je me rétracte. Ok.
Non, je ne demande pas qu'il vous rétracte,
il faut rétracter
vos positions, c'est important, vous avez bien compris.
Personne n'est parfait, donc...
On est en France, tout le monde a le droit de parler, donc voilà, et RTL, du coup, nous laisse la parole et c'est très très gentil à eux.
Non, c'est cool.
Voilà, vraiment, c'est pour dire qu'il n'a pas été parfait. Qui ça intéresse de savoir que Kenji Girac, quand ils l'ont trouvé dans la caravane, il était assis en cassant sur une chaise? Enfin, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je fais partie de la communauté du voyage, je suis à Bordeaux, ça s'est passé pas loin de chez moi, il était à l'hôpital, j'y ai pas été à l'hôpital. Bon, le pauvre, j'espère voilà, que tout va bien se passer pour lui, je ne le connais pas. Par contre, j'ai des membres de ma famille qui le connaissent, des copains qui le connaissent, ils m'ont très bien parlé de lui, tout le monde parle très bien de lui dans notre communauté, parce que c'est un gars très simple et puis très sympa, donc je le doute pas non plus. Mais vraiment, c'est pour dire qu'il y a que de la stigmatisation, si vous voulez, de notre communauté. Et ils sont pas tous comme ça, vous comprenez? Parce que dans une poignée, vous prenez une communauté, vous avez bien compris que dans toutes les communautés de France, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. Et dans la nôtre, c'est exactement pareil, on n'est pas exempt, on est français. D'accord? Donc, dans notre communauté, il y a des fois des gens violents, il y a des gens qui le sont beaucoup moins. Il y a des gens qui sont, patrons chez eux, il y a des autres, c'est la femme qui commande. Enfin, bref, c'est comme partout, d'accord?
Jérôme, pas en même temps, sinon ça va être difficile. Jérôme, vous comprenez que Teddy se soit senti stigmatisé?
Oui, mais en fait, je pense que le procureur n'a pas voulu faire ça par rapport à ça. Je pense pas qu'il ait qu'il ait quelque chose contre les gens du voyage. Parce que, comme disait Teddy, en fait, il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui sont moins bien, comme dans toutes les communautés, il a entièrement raison. Mais je pense pas que c'était dans ce but-là. Il voulait vraiment arrêter les rumeurs, point barre. Jérôme, si je peux me permettre, s'il te plaît, je te tutoie, je me permets, on est à la radio. Si je peux me permettre, alors, à chaque fois qu'il y a, par exemple, un fait divers qui concerne ma communauté, d'accord, et c'est toujours pareil, hein, on lit les journaux, et il est marqué « personne issue de la communauté des gens du voyage ». Donc il est bien précisé que c'est nous à chaque fois. Et alors, il n'est pas marqué qu'on peut être de la communauté maghrébine, qu'on peut être de la communauté juive, qu'on peut être de la communauté africaine, etc., etc., et j'en passe. Il n'est jamais noté quelque part de stigmatiser tout de suite une communauté. Nous, chez nous, quand il y a quelqu'un qui s'est fait interpeller, quand il y a quelqu'un qui l'a fait une connerie, etc., une personne issue des gens du voyage, il est toujours marqué, c'est toujours précisé. Donc ça, je pense que c'est grave. Si on le fait pour une autre communauté, tout de suite, ça va être les tribunaux, ça va être la polémique, etc. Quand c'est nous, ça passe crème, tout le monde accepte. Et nous, on est habitués parce que j'ai bien étudié mon histoire, d'accord? C'est l'histoire de ma communauté, c'est l'histoire de mon peuple. Donc j'ai bien étudié l'histoire. Durant toute l'histoire, si vous voulez, on s'est toujours fait taper sur les doigts. Donc on a une mentalité où on a tellement toujours tort qu'on n'est pas procédurier parce que on est formatisé dans notre tête de dire bon, je vais lancer la procédure, à la fin je vais perdre quand même. On le dit tous. Donc du coup, on n'est pas procédurier. Vous pouvez dire n'importe quoi sur nous. Il va rien se passer.
Aujourd'hui, votre message, Teddy, il est parfaitement passé sur RTL. Vous restez avec nous, Teddy Jérôme.
Okay.
Bonjour Didier.
Allô?
Oui, bonjour Didier. Vous avez composé le 3210. Vous nous appelez de Mont-de-Marsan, vous?
Oui, Mont-de-Marsan. Oui, moi j'ai eu affaire à ce juge, à ce procureur.
Alors vous restez avec nous, on vous retrouve dans un court instant. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Derosier.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole. Vincent Derosier sur RTL.
Et on repart tout de suite à Mont-de-Marsan. Merci d'avoir patienté, Didier.
Oui.
Alors, vous nous disiez, vous avez eu affaire au procureur de Mont-de-Marsan.
Oui, au procureur, oui, j'ai eu affaire. J'ai eu exactement les mêmes histoires que Kenji, que lui.
Alors, racontez-nous.
Moi, je connais bien les gens du voyage parce qu'ici, on en a beaucoup et puis je suis bien connu. J'y vais partout. Comme il y en a qui disent, on ne rentre pas dans des camps comme ça. Moi, je rentre dans des camps de voyage, même qui ne me connaissent pas. Ils ne me disent rien. Alors, qu'on arrête là-dessus. Mais en parlant de Kenji, oui, moi, j'ai eu affaire à ce monsieur. ce monsieur, quand je suis passé moi à la barre.
De qui vous parlez de ce monsieur, le procureur?
Le procureur, ouais. Le procureur. Quand je suis passé à la barre, que j'ai fait mes bêtises, je suis passé à la barre, d'entrée, il m'a assommé, il m'a mal parlé. Déjà, il m'a dit de fermer ma bouche, alors que, hop, voilà, moi, je ne me suis pas laissé faire. Et il a raconté toute ma vie devant tout le monde. Il y avait Radio Land, il y avait tout le monde. Il a raconté toute ma vie jusqu'à la vie de ma mère. Ce monsieur a raconté la vie comme ça. Je lui ai dit, sur mes affaires que j'avais avant, qui dataient des années, pour me casser.
Alors Didier, c'est également le rôle d'un tribunal. Vous dites que vous avez
fait
des bêtises.
Non, mais il a pas raconté toute ma vie, sur mes enfants, tout ça. Il n'a pas parlé de ça. Et à Kenji, c'est pareil, il a fait la même chose. Il a parlé de sa femme. Non, il n'a pas parlé de ma famille. Moi, j'étais là pour être jugé, moi, mais il n'a pas jugé ma famille.
C'est difficile, mais en général, au tribunal, il y a un niveau de détail qui est très élevé pour comprendre les tenants, les aboutissants. Et vous avez parlé de bêtises. Vous, c'était pourquoi?
Non, moi, je ne peux pas le dire parce que c'était passé dans le journal et tout. Après, s'ils me reconnaissent, ils viennent me chercher des histoires. Voilà, il est tellement... vous le voyez gentil, là. Là, il a fait son beau. Il a fait son beau à la télé. Il a fait son... Il laisse Kenji tranquille. Il est majeur, Kenji.
Là, la différence, en plus, c'est que c'était à la télé, les propos du procureur.
Oui, c'était à la télé, oui. Et encore, j'ai de la chance parce qu'il était à la télé. Moi, j'étais là, je ne savais pas que ça passait à la télé. J'ai vite mis sur BFM. Je lui ai dit, bougez pas parce que j'étais pas loin du palais de justice. Je lui ai dit, je vais aller me déplacer, je vais dire 4 députés. Parce que ça m'énerve que ça parle des trucs comme ça. C'est vrai que c'est toujours, on prend toujours les voyageurs. C'est pas toujours les voyageurs. Il y en a qui font des conneries, des voyageurs qui font des conneries, c'est les autres qui prennent voyageurs. Mais c'est pas toujours les voyageurs. Hein. Mais Kenji, il a eu peut-être une déprime. Il a fait sa petite bêtise, mais il n'avait pas parlé de sa femme, ni des faits, il n'avait pas parlé des trucs, ça ne nous regardait pas. Il parlait simplement, il n'avait qu'à parler de son arme, comme quoi il avait un calibre, comme ils disent, un pouscal, voilà, et comme quoi d'où venait cette arme et tout ça. Et ça s'arrêtait là. Et
merci.
Qu'est-ce qu'il va raconter toute la vie?
Merci beaucoup Didier d'avoir donné votre avis sur RTL en appelant le 3210. Bonjour Nadège.
Bonjour.
On va vous retrouver dans un instant, mais dites-nous, vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle d'Apt, dans le Luberon.
Dans le Luberon. Alors, dites-nous, Nadège. Non, on va vous retrouver tout de suite, en fait. On va vous demander tout de suite. Le procureur, ces mots et tout ce que vous avez entendu sur RTL depuis plus d'une demi-heure, là. Comment vous vous placez, vous, par rapport à tout ce que vous avez entendu ?
J'ai été choquée par les propos du procureur. Je trouve qu'il est sorti de son rôle. Je ne suis pas fan de Kenji. Je n'ai ni rien contre lui, rien pour. À chaque fois que je l'ai entendu, j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus. Vraiment, je suis absolument pas une fan. Je trouve que ce qui lui est arrivé, c'est une chose qui est suffisamment complexe, pénible. C'est un séisme dans sa propre famille, dans la communauté dans laquelle il se trouvait. Alors, quand on a entendu les informations qu'il avait reçu une balle, évidemment, c'est humain que notre curiosité est un peu émoustillée et qu'on veut tous avoir le fin mot de l'affaire. J'en fais partie. C'est pas très glorieux, mais j'en fais partie. Donc, effectivement, j'ai suivi, involontairement, parce que j'écoute RTL, qui est une radio qui fait du bien, la preuve avec l'émission de « Les auditeurs ont la parole ». Les deux dernières émissions, ça a été merveilleux.
Nadège, vous dites en même temps je veux tout savoir et en même temps le procureur en dit trop, et un paradoxe.
Oui, je comprends, mais je vous explique. Je pense que le rôle des médias, bien évidemment, c'est de relayer une information. Donc l'information qu'il ait reçu une balle, évidemment que ça interpelle, évidemment qu'on se pose des questions. En revanche, Kenji Girac, il a précisé d'entrée que c'était un accident domestique, donc voilà. Que la justice et que les forces de l'ordre aient fait leur travail, c'est tout à fait normal. Il fallait qu'ils enquêtent. Ils ne pouvaient pas s'en tenir là. On est d'accord.
Oui, parce qu'il avait dit qu'il avait acheté son arme dans une brocante, ce qui était faux.
Oui. Bon, tout ça, c'est OK. Il a camouflé pas mal de choses, mais il tenait à ce que ça reste dans la sphère privée. Qu'il y ait une enquête, c'est normal. qu'on ait été tenu au résultat au courant des résultats de l'enquête, c'est normal aussi. Jusqu'à un certain point, je pense, à mon point de vue, qu'une fois qu'il était établi que ce n'était pas un tiers qui lui avait tiré dessus, et c'était là la grosse question, après tout le reste, c'est de la sphère privée, et je ne vois pas en quoi un procureur peut faire étalage de ça, surtout qu'effectivement, on est dans un contexte particulier, que c'est d'une part une célébrité. Alors là, le procureur, plutôt que de fermer la porte à la presse à scandale et de les laisser aller fouiller, pardon, mais dans les détritus, et puis de vous donner des éléments à vous, de faire juste un bilan. Voilà, c'est une affaire privée, Kenji Girac s'est bien blessé lui-même, point barre. Là, vous, tous les médias, vous êtes tous obligés de relayer les infos qui ont été transmises par le procureur. Vous êtes tenus à ça, c'est votre travail. Mais pardon, je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Et il a réveillé sa femme une fois, et deux fois, et trois fois, et puis elle a craqué. Ça ne nous regarde pas, ça.
Merci beaucoup, Nadège, d'avoir donné votre avis au 3210. Et on l'entend, ce message. Teddy, le mot de la fin pour vous. Bon.
Bah, le mot de la fin, bah, tout simplement, voilà. Encore une fois, un petit message au procureur. Vous avez entendu Nadège ? Oui, bien sûr. Bon, je suis d'accord avec elle. C'est vrai qu'on en fait trop aujourd'hui, surtout. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de malheurs qui se passent dans le monde. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc, je pense que voilà. Je voudrais bien dire à tous les auditeurs que tous les membres de la communauté des gens du voyage ne sont pas tous violents, ne sont pas tous mauvais. On fait pas tous, on chasse pas tous la police, d'accord. Donc voilà. Et le procureur de la République, monsieur. Occupez-vous de votre prison que vous avez à Mont-de-Marsan, que c'est un vrai passoire, qu'il se passe n'importe quoi, qu'il n'y a aucun respect des surveillants envers les détenus. On sait comment que ça se passe. Donc voilà, n'oubliez pas que vous êtes procureur de la République, vous avez un travail sérieux. Si vous voulez changer de métier, j'espère que RTL, ils ont un petit chroniqueur. Si vous cherchez un chroniqueur people, je vous présente le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Merci voilà. Teddy, votre message est passé sur RTL. Merci beaucoup d'avoir appelé le 3210. Ce n'est pas encore l'heure du crime, mais on va avoir le programme, puisque Jean-Alphonse Richard est avec nous dans ce studio. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour, je suis ravi de vous voir.
Et au programme alors ?
À ce poste. Alors, dans l'heure du crime aujourd'hui, on va aller dans l'Essonne, à Soisy-sur-Seine, le 15 septembre 2005. Le corps sans vie d'une jeune femme, elle s'appelle Audrey Joannet, elle a 24 ans, est découvert chez elle. Elle a subi de nombreux sévices, puis elle a été étranglée. Un suspect va apparaître. C'est tout simplement le paisible concierge de la résidence. C'est un homme de 48 ans, toujours prêt à aider les uns et les autres. Mais en fait, c'est un violeur récidiviste. Il a été deux fois condamné pour des viols. Il a été remis en liberté. Et pour attaquer Audrey et faire disparaître son ADN, eh bien, il s'est tout simplement inspiré d'une série télé, NCIS. Donc, il avait de la suite dans les idées, cet individu. Il a tout fait pour brouiller les pistes. Jusqu'à l'ADN, on va examiner sa trajectoire, évidemment, de cet homme dans l'heure du crime. C'est l'affaire Audrey Joannet, et c'est à 14h30, évidemment.
Évidemment.
Sur RTL,
sera libre.
Dans un petit moment.
Merci beaucoup, Jean-Alphonse. Dans un très court instant, les infos, le rappel de l'actualité. À tout de suite.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
RTL.
Il est 14h sur RTL. 14h, c'est le rappel de l'information. Avec vous, Victor Darcas, rebonjour.
Rebonjour Vincent, bonjour à tous.
La flamme olympique enfin française.
Oui, on ramène le flambeau à la maison, allumé le 16 avril dans le site antique grec d'Olympie. Il sera remis tout à l'heure à 17h30, heure française, à Tony Estanguet, le président du comité olympique. La flamme embarquera demain à bord du Belém, destination Marseille, arrivée prévue pour le 8 mai.
Et puis, vous n'avez jamais été aussi nombreux à rencontrer des difficultés pour payer vos factures d'électricité.
Plus d'un million d'impayés en 2023, selon le médiateur national de l'énergie. Une hausse de 3% par rapport à l'an dernier, mais surtout presque 50% par rapport à 2019. Les fournisseurs ont donc de plus en plus recours à des limitations de puissance électrique plutôt qu'à des coupures fermes.
Deux des trois principales agences de notation américaines, Moody's et Fitch, se prononcent ce soir sur la situation économique de la France.
Alors que le déficit public atteint désormais 5,5% du PIB, la note pourrait être revue à la baisse. Réponse autour de 22h. La troisième agence de notation
l'association Standards & Poor's rendra son verdict le 31 mai.
À présent, un coup d'œil sur le temps, la météo de demain.
Et le temps sera couvert et pluvieux sur une large moitié ouest demain. Le ciel sera temporairement plus dégagé à l'est d'une ligne Perpignan-Reims avec peu ou pas de précipitations. Encore un peu de neige dans les Alpes et sur les Pyrénées à partir de 1800 mètres. Le vent d'est atteindra 90 km par heure sur le littoral méditerranéen et le vent d'ouest 80 km par heure sur la côte aquitaine. Les températures en hausse, le matin 5 à 10 degrés en général, 10 à 12 près de la Méditerranée, l'après-midi très homogène entre 14 et 20 degrés.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor Darcas. On va parler d'un sujet évoqué par le président de la République hier, Rachida Dati, sur RTL. On a encore parlé ce matin, l'intelligence artificielle, les bons côtés, mais aussi la menace qu'elle fait planer sur les emplois au niveau mondial. 40% des emplois au niveau mondial seraient touchés, bientôt 60% seront menacés dans les pays les plus développés. Et pour en parler, on va accueillir tout de suite Brigitte Lecordier. Alors, elle est actrice, directrice artistique française. Et elle est surtout connue pour ça.
Eh, c'est vrai, on peut voler? Moi, je voudrais bien essayer. Hop là! Hop, ça y est! Ouais, je sais faire du nuage supersonique!
La voix de Sangoku, Brigitte Lecordier. Bonjour!
Bonjour!
Voilà, pour les présentations, c'était peut-être le plus simple à faire.
Alors, c'est toujours rigolo.
On vous invite aujourd'hui parce que vous êtes à l'origine de la pétition « Touche pas à ma VF ».«
Touche pas ma VF ».«
Touche pas ma VF » sur change.org. Vous cherchez à attendre 35 000 signatures. C'est quoi cette pétition ?
En fait, c'est une pétition parce que, en fait, nous, comédiens, nous ne sommes pas contre l'IA. Hein. Mais on voudrait que l'IA soit légiférée. Pour, afin que notre métier soit, ne disparaisse pas. Parce que nous, ce qu'on fait avec, grâce au doublage, c'est qu'on donne un accès à la culture pour tous. Et c'est, pour nous, c'est très important. Et je sais que c'est important aussi pour notre ministre de la Culture, Rachida Dati. On a souvent parlé. Et du coup, nous, on voudrait faire du doublage une exception culturelle. Parce que sinon, en fait, les comédiens américains ont donné leur l'autorisation que l'IA soit utilisée pour leur rôle. Et ce qui fait que, en fait, leur rôle pourrait être doublé dans tous les pays du monde avec leur voix, avec une voix de l'IA, quoi. Hein, voilà.
Le scénario du pire dans 10 ans, qu'est-ce que c'est pour qu'on comprenne bien pour votre métier le doublage? Parce qu'en France, on est aussi des spécialistes du doublage.
Ben, en fait, ce qui pourrait arriver, c'est que en fait, ce soit des robots qui donnent les voix avec des voix dont on ne connaît pas la traçabilité, hein, parce qu'on peut prendre votre voix, la mienne, celle du voisin, les mélanger et faire une nouvelle voix. Voilà. Donc nous, on voudrait que ce soit qu'il y ait une traçabilité déjà de l'IA, qu'il y ait des limites à l'IA, et puis que le doublage soit considéré comme une exception culturelle en France parce que c'est le moyen de donner l'accès à la culture pour tous.
Et l'exception culturelle, c'est Rachida Dati qui peut vous la donner ?
Absolument, c'est notre ministre qui peut légiférer là-dessus ou faire entendre notre voix au Parlement. Voilà. Et c'est hyper important pour nous. Et c'est pourquoi nous avons fait une pétition, effectivement, hashtag touche pas ma VF, qui a à peu près 27 000 signatures en ce moment. Parce que faut se rendre compte que le doublage, en fait, c'est quand même 700 millions de chiffres d'affaires hein, en 2023. Donc, c'est pas rien pour l'économie française. C'est des milliers d'emplois, c'est des dizaines et des dizaines de métiers différents, etc. Donc, ça touche vraiment...
Notre invité tout à l'heure à la mi-journée nous disait que 99% des métiers dans le monde seraient impactés d'une façon ou d'une autre par l'intelligence artificielle.
Pas. Et puis, nous sommes avant tout des artistes. Et ce qui est important aussi, c'est que notre société garde aussi ses artistes et qu'une IA n'aura jamais l'inventibilité, je ne sais pas comment on dit, d'un comédien ou d'un dessinateur. Parce que faut vous dire que tous les métiers effectivement sont, tous les métiers artistiques sont touchés hein, par ça, que ce soit le dessin, la musique, etc. Et beaucoup d'autres métiers encore.
Et pas que. Voilà. Vous restez avec nous, on va accueillir Eric au 3210.
Merci.
Bonjour Eric.
Bien le bonjour à vous.
Alors, l'intelligence artificielle, ça vous a fait composer le 3210. Pourquoi Eric, votre métier est directement menacé?
Ah non, pas du tout. Moi, ce que je rêve, c'est avec toute cette technologie, c'est de voir un nouveau film avec tous nos anciens disparus, Coluche, Boris, de Funès, Gabin, tout ça, avec leur vraie voix, avec un nouveau scénario, avec quelqu'un de, qui sait faire comme Alain Chabat ou quelque chose, mais de revoir tout ça avec toute cette technologie qu'on peut reprendre leur voix, on peut refaire leur personnage, ça serait merveilleux.
Alors, non. Merveilleux peut-être, vous allez peut-être donner faire des cauchemars à Brigitte Lecordier, là, c'est peut-être tout ce qu'elle souhaite éviter à l'avenir.
Ben, ça fait du boulot au graphologue, ou je sais pas quoi, mais moi j'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie, un bon film avec tous les anciens, qui seraient là, même tous les figurants, ça serait des gens connus qui nous ont quittés.
Mais un bon film, vous laissez pas beaucoup de place aux jeunes artistes qui arrivent. Et puis, ça serait pas très...
Allez-y Brigitte Lecordier, oui, vous pouvez lui répondre.
Oui, je t'en prie.
Oui, vous ne laissez pas beaucoup de place aux jeunes qui arrivent. Et puis, ça serait pas très éthique, non, de redonner vie à des gens qui sont déjà morts. Parce qu'il faut, on n'aurait pas leur consentement. On ne sait pas s'ils auraient envie de tourner dans ce film ou pas.
C'est grave quand même.
Et oui, Eric, le problème du consentement.
Oui. Ben, si les descendants sont d'accord. Moi, je voudrais bien voir un nouveau film avec tous les gens que j'ai aimés quand j'étais gamin. Mmh. Vous savez, comme on regarde tous les ans La Grande Vadrouille ou tout ça, quoi, c'est...
Bah ouais, mais dans La Grande Vadrouille, ils sont effectivement extraordinaires. Mais est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est philosophique de faire parler, revivre des gens qui ne sont plus là, leur faire des choses qu'ils n'ont pas choisies? C'est grave quand même, non?
Vous restez avec nous, on va parler encore après la pub de ce projet de blockbuster avec Louis de Funès ou Jean Gabin. Et dans un instant, on va accueillir Richard et Hervé, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
Vincent Derosier vous donne la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
Vincent Derosier vous donne la parole sur RTL.
Un jour je serai le meilleur dresseur, je fleuve à présent des pis. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
Je parcours. Voilà, ça, c'est Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon. Ça n'est jamais arrivé. Évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Richard, bonjour.
Oui, bonjour.
Ce que vous entendez là, Johnny qui chante Pokémon avec l'intelligence artificielle, c'est pas une petite inquiétude quand même pour l'avenir?
Alors, si l'inquiétude c'est que ça, ça ira.
Non, c'était pour vous dire qu'on peut quand même faire à l'intelligence artificielle n'importe quoi.
Ah ben, alors là-dessus, vous prêchez un convaincu. C'est déjà le cas, même si beaucoup de personnes n'en sont pas conscientes, c'est déjà le cas. Je veux dire, mais j'entendais votre intervenante qui parlait des films dans le futur. Je veux dire, moi, je ne vais plus au cinéma. Parce que maintenant, lorsque je vais au cinéma, je ne vois plus que de la synthèse, je ne vois plus que... Enfin, les mêmes sortes de films. On sait comment une scène d'action va se passer. Enfin, tout est... Moi, ce que j'aimais, je rejoins un petit peu le monsieur précédent, j'aimais les films avec des cascades, avec... Le cinéma me faisait rêver. Maintenant, si c'est pour être dans un jeu vidéo, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, si vraiment l'intelligence artificielle n'était que recréer Johnny ou de Funès ou qui que ce soit, ce serait fun, ce serait super de temps en temps, pourquoi pas. Sauf que, et comme j'expliquais tout à l'heure, l'intelligence artificielle est déjà dans nos vies. Lorsque vous téléphonez pour prendre des informations, souvent, alors soit vous avez des plateformes à l'étranger, soit vous avez déjà des robots qui vous répondent. C'est de l'intelligence artificielle. Sur YouTube, vous avez des séries, des reportages où la personne qui parle, c'est directement une intelligence artificielle. Il y a encore quelques défauts parce que certains ont pris des choses qui sont pas à la pointe, mais réellement, nous sommes déjà dedans. Où les gens ne sont pas conscients, c'est de la guerre qu'il y a autour de cette intelligence artificielle et du pouvoir que ça va donner sur le monde. Pour l'instant, on nous parle des Américains, de ChatGPT.
Et qu'on s'est assez mal évalué aujourd'hui parce que la machine apprend trop vite.
Absolument. Moi, j'ai débuté, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle il y a 2 ans et demi à peu près, lorsque j'ai débuté ma thèse, qui au départ ne portait pas du tout là-dessus, c'était simplement sur l'amélioration continue et les systèmes un petit peu amélioration continue en production dans l'industrie. Actuellement, il existe déjà des systèmes qui auto-apprennent, c'est-à-dire que certains systèmes de production sont capables de s'auto-évaluer, de contacter un mécanicien pour dire « attention, on va avoir un problème à tel endroit ». Donc, à des niveaux beaucoup plus hauts, l'intelligence artificielle arrive même maintenant à créer des systèmes pour s'aider à répondre à des choses auxquelles elle n'est pas capable de répondre, comme ferait un être humain. Donc, et là, je n'exagère rien. Il suffit de piocher un peu des articles vraiment spécifiques, de lire quelques livres. Là, j'en ai lu un d'un spécialiste chinois qui a travaillé chez Google. Donc, on nous parle des Américains. Il faut savoir que les Chinois sont beaucoup plus en avance et eux, contrairement aux Américains, où on va dire lorsque quelqu'un, que ce soit un Facebook, un Google, prend un peu le lead, on le laisse tranquille. Chez eux, c'est plutôt la bagarre à dire « il est bon, mais je vais être meilleur que lui ». Donc on va trouver d'autres systèmes, on va améliorer le système. Le système va s'auto-apprendre. Alors ça apporte deux choses. Soit ce sera très bien, parce qu'on va avoir des systèmes d'aide en médecine, on pourra faire des opérations pointu du cerveau, des
ça, choses on le qu'on sait, pas on le sait, ça existe déjà. Soit ce sera très bien, soit vous craignez que ce soit le grand n'importe quoi.
Eh ben, ça peut tout de suite basculer. Après, donc dans le très bien, tout ce qui est médical, tout le contraire, ce sera les armes autonomes, ce sera les robots guerriers. Donc avec le quid de
les armes autonomes et un scénario à la Terminator. Richard, Brigitte Lecordier, vous avez juste d'un mot quand même, vous avez entendu Johnny qui chante le générique de Pokémon, c'est le début de la fin ça ?
Ben, ça amuse des gens, mais nous ça nous amuse pas parce qu'effectivement c'est la disparition de nos métiers et puis on n'est pas contre l'IA hein, comme disait le monsieur. Hein. Au contraire, il y en a partout et c'est un outil génial. Ce qu'on veut pas, c'est que cet outil remplace des humains et remplace des artistes. Une société qui n'a pas d'artistes est une société qui meurt. Vous voulez plus de créateurs, vous voulez plus de gens qui peignent, qui chantent, qui fassent de la musique.
Les règles et les lois existantes ne suffisent pas aujourd'hui, c'est ça aussi que vous dites.
Absolument. Absolument. Et bientôt, eh bien, quand on vous appellera sur RTL, c'est pas vous qui répondrez, ça sera un robot. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que c'est cette société qu'on veut ? Enfin, c'est une question d'éthique aussi. Bien sûr, on peut remplacer les gens, mais est-ce qu'il faut remplacer les gens ? C'est une question philosophique et d'éthique. Est-ce qu'on veut faire parler les morts ou est-ce qu'on voudrait que notre société soit vivante et qu'on fasse des choses avec les jeunes, avec les artistes, avec les gens qui existent ? On peut pas toujours être tourné vers le passé. C'est quand même vachement important de se poser ces questions-là, non ?
Il faut regarder l'avenir avec plus de sérénité et plus de règles. Bonjour Hervé.
Bonjour, bonjour la station.
Merci d'avoir appelé le 3210. On vous écoute.
Oui, avant d'aborder mon point, je voulais réagir au point du président Macron ce matin, faire de l'Europe et peut-être de la France un acteur majeur dans l'IA. Il y a d'abord une question préliminaire qui est la dépense énergétique et je pense que ça c'est un vrai point à interroger. Mon point concernant l'intelligence artificielle, je veux plutôt prendre un contre-pied, j'évoque plutôt une menace vis-à-vis des entreprises. Alors pourquoi ? Parce qu'avant d'aborder l'intelligence artificielle, on a d'abord besoin de l'intelligence naturelle. Et sur le côté assez français, je trouve, pour l'observer de l'intérieur, qu'on a des salariés qui sont de plus en plus désintéressés, désalignés, désengagés, déconsidérés. Et avant d'aboutir à une forme d'intelligence, parce que pour le côté entrepreneur, patron, oui, effectivement, ça peut avoir des effets d'aubaine dans la productivité, la stabilité et l'économie. Mais avant d'en arriver à ces intelligences humaines, alors je ne remets pas en cause bien fonder l'intelligence humaine dans des choses complètement disruptives, vous l'avez évoqué au travers des diagnostics médicaux. Mais dans une logique beaucoup plus traditionnelle, et je le vois au travers des projets qu'on peut adresser dans les entreprises, on a des taux de réussite qui sont extrêmement faibles, hein, puisqu'on évoque des taux de réussite dans des projets de transformation liés à l'informatique ou pas, qui sont de l'ordre de 30%. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'écueils et d'échecs parce qu'on n'a plus Moi, j'aime bien évoquer la notion de bon sens, mais pour arriver avant d'avoir des outils intelligence artificielle ou déjà des algorithmes ou autres logiciels, il faut déjà arriver à recréer ce bon sens, cette mise en perspective, donner de la vision. Et aujourd'hui, moi, encore une fois, je le constate dans les entreprises.
Menace pour les entreprises.
Ouais, parce que typiquement, l'employé perd un peu pied, n'est plus vraiment considéré, et donc il est plus forcément à même de donner une part de lui. Et comme on pense que
l'intelligence artificielle vue comme une menace. Hervé, merci beaucoup. On va très très rapidement aller voir Baptiste. Baptiste, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant. L'intelligence artificielle menace ou pas ?
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
C'est une catastrophe, pour être très transparent. À mes yeux, en tout cas, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, pour faire simple, donc je suis en apprentissage en commerce. Et quand je suis amené à aller travailler donc dans mon centre de formation, là où c'est une catastrophe, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire tous les jeunes, mais une grande majorité, utilisent, exploitent ces intelligences artificielles à leur profit. Alors, c'est tout à leur honneur parce que, entre guillemets, il n'y a rien qui l'interdit. Et j'ai envie de vous dire, les formateurs, malheureusement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Comme on travaille avec des outils modernes, des ordinateurs, des téléphones et tout ça, c'est compliqué pour certains de ne pas s'en passer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des élèves, des camarades, des gens comme moi, qui étudient, qui ne se basent que là-dessus, mais qui, le jour de l'examen, vont se casser la tête pour rester poli. Alors, on pourrait très bien dire, je le fais pas, donc tant mieux pour moi, mais le problème, c'est que, encore une fois, il n'y a rien qui l'interdit. Et malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard parce que ça s'est développé, ça s'est retrouvé sur le marché. Et aujourd'hui, on peut, mais plus rien en faire. Et je pense notamment à une plateforme...
Merci Baptiste. On est obligé.
Il faut que l'IA soit un outil.
Brigitte Lecordier, le mot de la fin, allez-y.
Moi, je dis, il faut que l'IA soit un outil. Et il ne faut pas que ça remplace les humains, ni le savoir, ni rien. Voilà. Il faut que...
Brigitte Lecordier, on rediscutera d'intelligence artificielle avec vous. On a énormément de messages d'auditeurs qui nous demandent un petit au revoir de votre part avec la voix de Sangoku. C'est possible ?
Oui, bien sûr que c'est possible. Alors, aidez-moi à appeler Rachida Dati pour lutter contre l'intelligence artificielle dans le doublage. Merci les copains.
Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Sangoku et Brigitte Lecordier, c'est la même personne. Victor Garcas vient d'entrer dans ce studio. Dans un instant, l'auditeur du bout du monde.
L'auditeur du bout du monde, vous pouvez gagner un guide du routard pour ça. Il faut deviner où est-ce qu'on va. Et pour ça, un indice sonore. Vous l'avez reconnu ? De Mireille Mathieu.
J'ai besoin d'aide là.
Il s'agit de Mireille Mathieu qui chante dans la langue locale. Vous nous envoyez un message sur l'application RTL et vous repartez avec un dit du retard.
Je vais tricher pendant la pub.
Jusqu'à 14h30,
Vincent Derosier vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Vincent Derosier sur RTL.
L'auditeur du bout du monde, où est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on a un gagnant ? Enzo ?
Oui, tout à fait, on part dans la province de Guizhou en Chine et c'est Serge de Paris qui remporte le guide du routard.
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous appelez d'où, Frédéric ?
Je vous appelle de Guiyang, dans le Guizhou en Chine.
Ce qui explique le tout petit décalage. Pourquoi être parti là-bas ? Ouais.
J'avais envie de nouveaux challenges. Je commençais un petit peu, ça faisait 20 ans que j'étais dans mon métier de directeur informatique en France. Et j'ai une deuxième passion qui est le BMX. Et du coup, j'ai voulu changer complètement et faire de ma passion en fait mon métier.
Parce que vous êtes chef d'entreprise des Bretons, hein, voilà. Donc la Chine, c'était pas forcément le premier choix quand on pense comme ça à une reconversion.
Non, mais en fait, j'avais fait les championnats du monde en Chine en 2008 et je suis tombé amoureux du pays. Donc du coup, quand en 2014, j'ai décidé de trouver un nouveau challenge, je me suis dit que la Chine, c'était plutôt pas mal.
Et alors du coup, vous êtes consultant pour l'équipe de Chine de BMX. Comment ça s'est passé cette collaboration ? Ils sont venus vous chercher ?
En fait, je suis aussi le head coach du Guizhou BMX Team. Donc, je coach mon team, l'équipe du Guizhou, et je suis consultant en plus pour l'équipe de Chine. Mais avant ça, en fait, j'ai créé mon entreprise là-bas avec ma femme qui est chinoise. On s'est mariés début 2016.
Ça fait une bonne raison de rester.
On a créé notre entreprise. C'était une bonne raison de rester, ouais, tout à fait. On a un fils ensemble qui a 7 ans et demi. Et du coup, on a fait plusieurs projets, donc on s'est fait connaître petit à petit, tout au long de ces 7 années. On s'est fait connaître dans le Guizhou pour faire des projets divers et variés. On a créé un chemin de rando de 26 km dans les montagnes, dans les villages de la minorité Miao.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre vie d'expat au quotidien?
C'est une vie d'aventure en fait. À chaque fois qu'on va rencontrer un gouvernement local dans les villages, à chaque fois c'est un émerveillement total. On est complètement en dehors des sentiers battus, des circuits touristiques, etc. Donc, je suis au contact des vrais habitants du Guizhou, en fait.
Et qu'est-ce qui vous manquerait le plus si jamais vous deviez rentrer un jour en France ?
J'ai pas du tout envie de rentrer, en fait. non, je pense que c'est cette vie-là. Écoutez, j'ai vécu en Bretagne pas mal d'années, donc maintenant je découvre d'autres horizons et en fait non, il y a des choses qui me manquent de la Bretagne, bon, ma famille en Bretagne déjà, mais sinon la Bretagne est dans mon cœur, donc j'ai pas besoin d'être en Bretagne pour me sentir breton.
Votre famille est déjà venue nous voir en Chine?
Comment ?
Est-ce que votre famille bretonne est déjà venue à vous en Chine ?
Alors, j'ai mon grand-fils qui est venu deux fois m'aider sur des projets. Les autres, pour l'instant, ne sont pas encore venus parce qu'il y a eu 3 ans de Covid qui nous ont un petit peu enquiquinés là, les 3 dernières années. Donc maintenant, les portes sont à nouveau ouvertes. En plus, maintenant, il est possible de rentrer en Chine pendant 15 jours sans visa en venant de France. Donc ça facilite un petit peu les choses. Donc, pourquoi pas, dans l'avenir, les faire venir également.
Et vous conseillez à nos auditeurs de venir faire un tour, hein. C'est une belle région qui se visite.
Le Guizhou, c'est 92% de montagne. Guiyang est à 1200 mètres d'altitude. On a un climat
ça se visite tropical. Pour les randonneurs,
Les randos, pour le VTT, pour beaucoup de sports extrêmes. Et en fait, le fait d'être en altitude, en fait, on a pas les problèmes du climat tropical qu'ils ont par exemple à Shenzhen ou très chaud, très humide. Ici, en fait, il fait beaucoup moins chaud. On a une saison des pluies qui est assez marquée, mais par contre, on a une arrière-saison qui est absolument superbe de septembre à novembre. C'est vraiment sympa. Mmh. Et après, on a un hiver de 2-3 mois, et là, c'est reparti. Là, on a encore un climat qui est absolument magnifique là en ce moment. Aujourd'hui, on était en t-shirt dehors.
Merci beaucoup Frédéric, et on vous souhaite le meilleur pour votre vie d'expat en Chine. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous sur RTL. 14h28, c'est tout bientôt que Jean-Alphonse Richard prend les commandes.
Et on y arrive, oui, c'est tout de suite avec le meurtre d'Audrey Joanet, tué par un violeur récidiviste qui s'était inspiré d'une série télé. À tout de suite.
L'heure du crime, à tout de suite.
RTL.